nouvel iPhone 16. Inscrivez-vous au tirage au sort, vous envoyez Europe 1 par SMS au 7 39 21, 3 fois 75 centimes plus coût du message. Je vous souhaite bonne chance.
Le top jeu Europe 1.
Et je vous souhaite une très belle soirée qui se poursuit sur Europe 1 avec Valérie Darmon et la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Ombline. Il est 22h, le journal du soir vous est présenté par Brandon Ouarred. Bonsoir Brandon.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous.
Europe 1 Nuit Weekend. Brandon Ouarred.
Ravi de vous accompagner pour 30 minutes d'information avant de retrouver la libre antenne avec Valérie Darmon. Et pour parler avec Valérie, vous pouvez composer dès à présent le 01 80 20 39 21. Et avant cela, votre journal. La grogne des agriculteurs un an après la mobilisation fait son retour. Blocage prévu dès demain en région parisienne et lundi partout en France. En cause notamment un traité entre l'Union européenne et le Mercosur. Une prise d'otage en région parisienne. Un homme armé d'un couteau retenait ses quatre employés, toxicomanes, pensée suicidaire. Le suspect interpellé après 3 heures de négociations. Retour sur les faits à suivre. Dans ce journal également, nous irons en Ukraine, millième jour de guerre. Le président Volodymyr Zelensky veut mettre fin au conflit en 2025 par des moyens diplomatiques. 40 ans de travail, 59 000 mots, le dictionnaire de l'Académie française, 9e édition, a été publié. Et invité exceptionnel dans Europe 1 Nuit Weekend ce soir, l'immortel Jean-Marie Rouard. Et 1 et 2 et peut-être 3 victoires d'affilée contre la Nouvelle-Zélande. Les Bleus défient les All Blacks en ce moment. Un choc XXL. Alors qui prend l'ascendant du suspense dans une rencontre tendue? Vous allez voir, c'est très serré. Nous serons en direct du Stade de France à la fin de ce journal.
Europe 1.
La grogne des agriculteurs après la première vague de contestation durant l'hiver dernier. Le monde paysan remet ça et se prépare à de nouvelles manifestations dès lundi. Au cœur des crispations, l'appauvrissement du secteur, mais aussi une surabondance de normes dans les fermes. C'est le branle-bas de combat à moins de 72 heures du début des premiers rassemblements. Un reportage en Occitanie, Alexis Bourdon.
Dans cette exploitation céréalière du Gers, la machine à trier les grains tourne à plein régime. 3 générations d'agriculteurs travaillent près de 600 hectares avec un objectif, finir au plus vite les travaux pour sortir manifester. Laurent, le père qui n'est pas un habitué des rassemblements, pourrait rejoindre un cortège.
Moi je suis vraiment en colère, les politiques ne nous écoutent même pas, ils nous prennent pour des imbéciles. On fait nourrir la planète et on vend quoi notre matière première? On la vend au prix de quoi? De que dalle, rien du tout. Moi je dis c'est une honte.
Près du tracteur, son fils Dorian est engagé au sein de la coordination rurale du 32. Lui aussi sera dans les rues mardi pour s'opposer à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine.
Quand on va dans n'importe quel supermarché, les produits d'ailleurs, ils sont vendus à des prix rabais, sauf que le consommateur français regarde généralement le prix. Donc au bout d'un moment, la concurrence déloyale, le Mercosur, c'est peut-être pas une bonne chose qu'il soit signé avec toutes les importations qui sont annoncées.
Déterminés, les agriculteurs préviennent, ces manifestations pourraient être le début de plusieurs mois de mobilisation.
Alexis Bourdon, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Et la colère des agriculteurs également au menu d'Europe 1 midi week-end ce samedi. Lénaïque Monnier recevait le député écologiste de Charente-Maritime et également agriculteur Benoît Biteau.
Benoît Biteau, bonjour.
Bonjour madame.
Député de Charente-Maritime, est-ce qu'il y a une chance que ce Mercosur ne soit pas voté?
Ben, j'espère qu'il y en a une, parce que ce serait vraiment désastreux. Moi, je suis extrêmement méfiant de la stratégie, ça a été très bien développé par le journaliste juste avant, de la stratégie pour adopter la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui pourrait contourner cette minorité de blocage, et donc faire en sorte que, contre l'avis de la France, qui est quand même un pays leader de l'Union européenne, cet accord soit adopté. Et effectivement, le seul obstacle qui pourrait rester, ce serait le vote au Parlement européen, sauf que suite à la dernière élection européenne et la configuration actuelle du Parlement européen, il y a lieu de s'inquiéter sur la possibilité d'empêcher cet accord.
Est-ce que gagner du temps, comme semble vouloir le faire Emmanuel Macron, peut-être en discutant au G20, c'est important, c'est utile?
Alors, je suis pas sûr que Monsieur Macron va le gagner du temps. Moi, ce que j'entends dans les propos de Monsieur Macron, c'est on ne peut pas signer l'accord du Mercosur en l'état. Et c'est en l'état qui m'inquiète. C'est-à-dire que ce que je crois qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de faire bouger quelques lignes pour que cet accord de libre-échange soit plus facilement acceptable. Donc, on est dans de la négociation. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si il arrive à gagner quelques arbitrages pour modifier à la marge quelques éléments de cet accord, dans la mesure où ces cinq pays de la zone Mercosur n'ont comme économie à proposer pour négocier avec l'Europe ce qui sort des activités primaires, c'est-à-dire des activités agricoles ou des activités en mer, de toute façon, on aura, quoi qu'il arrive, même s'il y a des évolutions à la marge des textes de cet accord, l'obligation d'accepter l'entrée sur le continent européen de productions agricoles qui viennent de la zone Mercosur. Donc, moi, je suis très inquiet parce que ce que j'entends de la bouche de M. Macron, c'est pas une opposition au Mercosur, quoi qu'il arrive, c'est une opposition en l'état. Et c'est ce en l'état qui est très inquiétant, à mon avis.
Alors, vous avez la double casquette, hein, puisque vous avez pratiqué, justement, les arcanes hein, du Parlement européen. Comment ça fonctionne? Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression... Est-ce qu'on peut retourner quelques pays? Comment ça se trame, tout ça, au Parlement?
Alors ça, c'est pas le Parlement, c'est le Conseil. C'est l'endroit où les États décident. Effectivement, il y aura une étape de validation par le Parlement européen. Et l'espoir, il est peut-être là. C'est-à-dire que au Parlement européen, on risque d'être sur d'autres dichotomies que des dichotomies de pays ou de. Ça peut être une dichotomie d'obédience politique qui ferait que, quel que soit le pays dont est originaire tel ou tel député, il considère que sa famille politique ne peut pas valider l'accord de libre-échange. Et donc, le vote au Parlement européen est un peu différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on va pas avoir un vote homogène d'un pays pour ou d'un pays contre des députés issus de tel ou tel pays. Ça va être le cas en France. Hein. Potentiellement, on va avoir des députés français qui peuvent voter pour cet accord de libre-échange. Et pourtant, ils sont français. La position de la France serait plutôt contre cet accord de libre-échange. Mais on peut imaginer que quelques députés français y soient favorables. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la configuration actuelle du Parlement européen suite à la dernière élection européenne me laisse quand même inquiet sur l'hypothèse d'un blocage au Parlement européen. Ce sera très serré de toute façon.
Et ce qui inquiète et les Français et ceux qui les nourrissent, en l'occurrence les agriculteurs, eh bien c'est aussi la question de savoir si à terme on pourra continuer à vraiment manger français. Ça, c'est une réalité qui arrive, hein.
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis moi-même paysan. Hein. Vous l'avez pas dit. J'ai été effectivement député européen. Je suis actuellement député à l'Assemblée nationale, mais je suis toujours paysan. Et effectivement, quand on regarde l'absence de contraintes ou de réciprocité, on va plutôt s'appeler comme ça dans cet accord de libre-échange, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter pour les agriculteurs français. Mais globalement, on est dans un effet papillon grandeur. Je ne sais pas comment, extraordinaire, énorme effet papillon, c'est-à-dire que cet accord de libre-échange participe aussi à l'accélération du dérèglement climatique, participe aussi à l'effondrement de la biodiversité, avec des pratiques agricoles qui déforestent la forêt amazonienne. On a déforesté en 5 ans l'équivalent de la péninsule ibérique de l'autre côté de l'Atlantique, avec l'utilisation massive de pesticides qui sont interdits en Europe, et c'est un sujet de concurrence déloyale, mais qui effondre la biodiversité. Et donc ces pratiques agricoles-là participent à affaiblir la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire, c'est l'accélération du dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité, et pas seulement en Europe. C'est-à-dire que c'est une approche qu'on doit avoir à l'échelon planétaire. Et donc, encourager des productions agricoles qui participent au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, c'est menacer aussi la souveraineté alimentaire en Europe, au-delà des importations de produits qui ne respectent pas les standards de production qu'on exige des agriculteurs européens et qui donc se trouvent effectivement dans une concurrence déloyale.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît Biteau, d'être venu défendre la souveraineté alimentaire française. Vous êtes effectivement agriculteur et également député écologiste de Charente-Maritime.
Et vous retrouverez Lénaïck Monnier demain, comme chaque semaine dans Europe 1 Midi Week-end. D'ailleurs, notez l'invité ce dimanche, Jean-François Vigier, le maire UDI de Bures-sur-Yvette et vice-président de l'Association des maires de France. 22h09 sur Europe 1. Dans un instant, on reviendra sur cette prise d'otage en région parisienne cet après-midi.
Europe 1 Nuit Week-end.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, super votre appli Mon Leclerc, je ne manque plus aucune promo.
Ah, tant mieux.
Mais vous auriez pas une appli pour intégrer ma carte de fidélité?
Bien sûr, l'appli Mon Leclerc.
Mais celle-là, je l'ai déjà.
Justement, on récapitule. Avec l'appli Mon Leclerc, consultez toutes nos promos, activez vos bons de réduction, retrouvez votre carte de fidélité et conservez vos tickets de caisse. Elle fait tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Disponible sur iOS et Android. Plus de détails sur www.e.leclerc, rubrique application mobile. Conto, c'est le compte pro avec lequel c'est fait.
Oui, allô, je suis directeur financier d'une PME et je... Oh, un instant. Allô? Mais non, j'ai pas reçu tes notes de frais. Quoi? Comment ça, le client a pas réglé la facture?
Avec Conto, accélérez vos finances pro. Gérer les dépenses de vos équipes, c'est fait. Simplifier votre compta, relancer facilement vos clients, oui, tout ça, c'est fait aussi. Rendez-vous sur conto.com pour découvrir le compte pro qui facilite la vie des PME. Conto, le compte pro qu'il vous faut.
Europe 1 Nuit Weekend. Brandon Ouarrett.
22h10 sur Europe 1. Merci de passer votre samedi soir en notre compagnie. On en vient à cette prise d'otage cet après-midi en périphérie parisienne à Issy-les-Moulineaux. Un homme, le gérant d'une pizzeria, s'est retranché dans le restaurant. Il a fini par être interpellé. Un suspect qui souffre de toxicomanie. Il aurait des pensées suicidaires. Il est connu des forces de l'ordre, mais inconnu de la justice. L'homme aurait déjà commis des faits similaires en 2022. Guillaume Dominguez, une prise d'otage qui aurait comme point de départ un conflit.
Il aurait éclaté entre le fils des propriétaires de cette pizzeria et l'un des employés, sans que l'on sache encore pourquoi. Le gérant d'une quarantaine d'années prend alors en otage 4 personnes. Arrivé sur place, les forces de l'ordre font face à un homme armé qui menace de se suicider. Deux équipes de la BRI prennent alors le relais. L'ordre d'intervenir est donné un peu avant 16h. Deux déflagrations se font entendre et en quelques secondes, l'homme est interpellé et les 4 otages libérés sans qu'aucun d'entre eux ne soit blessé. Pour les habitants du quartier comme Antoine, le scénario qui se déroule sous leurs yeux à ce moment-là est une véritable tragédie.
On y va avec ma famille, avec mes potes, c'est vraiment la pizzeria du quartier quoi. C'est vraiment une pizzeria sans histoire, ça passe toujours très bien. Les patrons sont vraiment cool, c'est vraiment des gens simples, très gentils, toujours un sourire, donc là vraiment on est tous choqués.
Et une enquête est ouverte par le parquet de Nanterre pour enlèvement et séquestration, placé en garde à vue. L'homme va faire l'objet d'un examen psychiatrique.
Les précisions, Guillaume Dominguez pour Europe 1 est le principal suspect de l'assassinat d'un sans domicile fixe à coups de parpaing à Lyon est écroué. Arrêté à Toulon cette semaine, il est mis en examen pour tentative d'assassinat et pour plusieurs autres tentatives d'homicide en France et aux Pays-Bas. 22h12, Europe 1 prend la direction de l'Ukraine. Mettre fin à la guerre d'ici 2025 par voie diplomatique. Objectif de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui tend aussi la main à ses alliés occidentaux, américains, européens, alors que les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort. Des déclarations dans un contexte géopolitique compliqué pour l'Ukraine, hein, Wilfried de Villers.
Oui, d'abord parce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis début novembre a changé la donne. L'Ukraine craint un affaiblissement du soutien financier et militaire américain essentiel pour son armée en difficulté ces dernières semaines. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky a de nouveau rappelé s'être entretenu récemment avec Donald Trump, façon d'assurer sa volonté de maintenir de bonnes relations diplomatiques avec les États-Unis. L'ouverture de négociations, dit-il, ne sera possible que si l'Ukraine n'est pas seule avec la Russie. Et Volodymyr Zelensky qui pose de nouveau ses conditions pour discuter de la fin du conflit. Nicolas Tenzer est enseignant en géostratégie à Sciences Po Paris.
Il a dit clairement qu'il n'y aura pas de négociation territoriale. C'est pas question non plus d'absoudre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par la Russie. Je veux la fin de la guerre, mais ce n'est pas à n'importe quel prix, à n'importe quel coût.
Sauf que la Russie pose la cession des territoires qu'elle occupe en Ukraine comme une condition non négociable. Moscou actuellement en position de force alors que son armée avance toujours plus face aux forces ukrainiennes. Des positions figées d'un côté comme de l'autre qui rendent peu probable l'ouverture prochaine de véritables négociations.
Un décryptage signé Wilfried de Villers pour Europe 1. Dans l'actualité, c'est aussi la publication du 4e et dernier tome de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Il a été remis officiellement au président de la République ce jeudi au cours d'une cérémonie sous la coupole de l'Institut de France. Et pour en parler, on est très honoré d'avoir comme invité ce soir dans Europe 1 Nuit Weekend l'académicien Jean-Marie Rouard. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes les gardiens de notre langue et vous devez l'éclaircir pour ces centaines de millions de locuteurs partout dans le monde. Conservateurs, révolutionnaires, vous êtes en même temps l'un et l'autre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron jeudi. Vous avez ressenti comment le discours du chef de l'État ?
Eh bien, écoutez, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de non-dits de part et d'autre. Des non-dits de la part du président de la République et des non-dits de la part de l'Académie elle-même. Parce que le vrai sujet n'a pas été abordé. Vous savez que la langue française, en ce moment, est malade. Mmh. Elle est même moribonde. Enfin, moi, je suis peut-être un peu pessimiste, mais je la crois moribonde. Et ça n'a pas été évoqué. Et c'est vrai que le président est dans une position délicate, puisque lui-même s'exprime très souvent en franglais. Donc, le fait qu'il lui rende hommage, c'est bien, mais en même temps, on ne sentait pas que c'était au fond très sincère. Pour l'Académie, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle fasse quand même des remontrances au président de la République, qu'elle lui dise, qu'elle lui parle franchement. Nous, nous essayons de faire respecter le bon usage. Mais le bon usage, c'était le bon usage notamment populaire. C'était à la fois les salons et le peuple. Et le peuple avec une inventivité extraordinaire. Regardez les vieilles chansons françaises. C'est le peuple et la poésie, la vieille poésie merveilleuse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple, eh bien, il est complètement intoxiqué, malaxé par la publicité et par l'usage du franglais. C'est très étonnant de voir que, au fond de la France, eh bien, vous avez des marins pêcheurs qui vous disent bye bye. Il y a une pollution générale. Regardez Ouigo, la SNCF. Et tenez-vous bien, savez-vous comment on a baptisé la Sorbonne? Sorbonne Université. Mmh. La syntaxe, c'est pas du français, c'est du franglais.
Oui, oui, vous reprochez justement cela. Tout à l'heure, vous disiez pour Emmanuel Macron, vous aviez pas fait assez de reproches hein, de la part des immortels. Vous savez si le chef de l'État a lu, parcouru ce dictionnaire?
Sûrement. Mais ce dictionnaire, il a une particularité. C'est pas un dictionnaire commercial. C'est-à-dire que il y a beaucoup de mots que les dictionnaires, je pense que nos concurrents, ils mettent des mots parce que chaque année, ils doivent renouveler leur dictionnaire. Nous n'avons pas ce problème.
Et justement, c'est 40 ans pour ce tome, pour cette édition, 9e édition. Ça avait commencé en 1986. Vous réagissez comment, vous, après 40 années de travail, d'avoir ce dictionnaire qui est enfin publié?
Écoutez, il me semble qu'il y a deux questions. Il y a l'Académie française et le dictionnaire. Moi, ce que je trouve prioritaire, c'est l'Académie française comme pour défendre la langue française. C'est ça qui est important. Regardez à quel point c'est formidable de voir que Romain Gary, que Florent, que des écrivains étrangers sont venus en France pour la langue française. Et elle porte non seulement une vérité par la beauté, mais en même temps, elle porte des valeurs qui sont les valeurs de la France. Vous voyez, c'est beaucoup plus qu'une langue, si vous voulez, c'est une langue qui a derrière elle une philosophie. Donc si elle est dénaturée, à ce moment-là, c'est l'image même de la France qui est dénaturée.
Et cette nouvelle édition, elle n'arrive pas un peu trop tard? Il n'y a pas un délai d'accouchement tardif quand même? Parce que quand on regarde les mots qui sont entrés dans cette nouvelle édition, télétravail, révisionniste, tofu, vibromasseur, wokisme, zapping, ce sont des mots pour la plupart qu'on utilise déjà depuis plusieurs, quelques décennies, quelques années. Ça n'arrive pas un peu tardivement, cette nouvelle édition?
Écoutez, je trouve ça déjà un grand effort de part de l'Académie d'avoir fait entrer Vibromasseur. Franchement, moi-même, j'en rougis. Non, mais vous êtes comme Napoléon. Napoléon trouvait que les académiciens devraient aller beaucoup plus vite dans leur dictionnaire. Vous savez, mais ce sont ni des linguistes, ni des lexicographes. Vous voyez, donc, ils prennent leur temps.
Est-ce que le dictionnaire de l'Académie française sert encore à quelque chose aujourd'hui, en 2024, quand on voit, par exemple, que vos concurrents, vous en parliez il y a quelques instants, les concurrents en ligne, hein, Le Robert, Larousse, Hachette, mettent chaque année à jour leur lexique, avoir des mots comme ça, parfois obsolètes, il n'y a pas un peu ce retard? On se pose la question de l'utilité de ce dictionnaire aujourd'hui.
À travers ce dictionnaire, c'est un symbole. Ça montre un intérêt très profond pour cette chose mystérieuse qu'est la littérature et à travers laquelle la France s'est exprimée. On pourrait dire que la France est une création de la littérature. On pouvait voir le nombre d'hommes d'État qui étaient des passionnés de littérature. Regardez, on a été influencé par Jean-Jacques Rousseau, par Victor Hugo. À toutes les époques, si vous voulez, le rôle des écrivains avec l'État a été essentiel. Ce dictionnaire est un symbole. Il y a des défauts. D'ailleurs, j'ai vu que les linguistes étaient très critiques.
Voilà, justement, la communauté scientifique très critique.
Vous, non, mais c'est normal. Vous savez, l'académie, c'est un fantasme. Et c'est normal que les gens s'en prennent à l'académie parce que c'est l'institution. C'est pas papa, c'est grand-papa. C'est quelque chose qui incarne la France depuis tellement longtemps. Et on s'en est moqué quelquefois. Eh bien, c'est la France. La France, personne n'est d'accord avec son voisin. Et c'est très bien qu'on critique l'académie. Moi, je suis pas du tout le premier à considérer que c'est pas tabou, l'académie.
Et vous leur répondez quoi à ces scientifiques? Il y a une tribune qui a été publiée mercredi dans Libération par le collectif des linguistes atterrés. Le titre, c'est « Le dictionnaire de l'Académie française, une vision passéiste de la langue et une méthode de travail obsolète ». Vous leur répondez quoi?
Écoutez, je leur réponds avec humour, parce qu'ils avaient fait un petit livre qui était parfaitement ridicule, en disant que la langue française se portait très bien. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est les linguistes. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très savants, ils ont fait des études très, très importantes, mais ce ne sont pas des écrivains. Moi, je parle en écrivain. Et les écrivains, c'est quand même, si on supprime les écrivains, qu'est-ce qui reste de la langue française? Donc, franchement, c'est un peu ridicule de voir ces linguistes qui veulent donner une leçon de langue française. Mais qui sont-ils pour la donner? C'est des profs. Mais les profs, c'est pas eux qui font la langue française.
Et justement, le chef de l'État va dans votre sens. Il a dit dans son discours, sous la coupole de l'Institut de France, il est important que ce soit des écrivains qui s'occupent de la langue, ils ont le goût, ils ont l'usage. Il va dans votre sens, le président de la République.
Oui, partiellement, parce qu'il va dans mon sens. Mais dans les faits, à partir du moment où lui-même ne fait rien pour arrêter, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette loi tout bon, qui n'est appliquée qu'à 80%, demandez aux Québécois, qui eux, luttent réellement pour la défense de notre langue, qui défendent c'est le français, eh bien, et ils se sont battus contre l'envahissement américain et ils ont pris des mesures. Nous, nous avons pris une mesure qui était très très utile, c'était la loi Toubon. Bien entendu, on a essayé de la désamorcer en écartant la publicité de la loi Toubon, ce qui est d'ailleurs une erreur énorme. Mais cette loi, il faut l'appliquer, il faut la renforcer. Et je suis étonné, justement, que c'était le non-dit de cette réception pourtant historique du président de la République avec l'Académie.
Alors, j'ai été faire un tour dans la version en ligne du dictionnaire de l'Académie française, hein, elle est gratuite. Il y a quand même des ratés. Si on recherche la définition du mot, par exemple, smartphone, alors vous parliez du franglais, il n'y a aucun résultat, alors que c'est un mot très couramment utilisé. C'est pareil pour web. D'autres mots plus étonnants, féminicide, il n'y a pas de définition dans le dictionnaire en ligne de l'Académie française.
Oui, mais c'est-à-dire, il ne faut pas voir le dictionnaire d'Académie, il n'est pas complètement, si vous voulez, on ne fait pas entrer tous les mots d'aujourd'hui. Quand on peut les remplacer par les mots français, ben, il faut employer les mots français.
Ben vous dites quoi pour féminicide, alors, s'il n'y a pas de définition de ce mot, vous le remplacez par
féminicide,
quoi?
Ben, attendez, féminicide, on n'est pas dans le franglais, là.
Oui.
Féminicide, ouais. C'est simplement un peu de retard à l'allumage. Il y a le mot zadiste, ça prouve aussi qu'elle est quand même dans le coup.
Je continue, vous parliez de vibromasseur, il y a le mot fellation, mais pas cunilingus, par exemple, aussi.
Ah, bon, c'est peut-être parce que c'est du latin. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas, vous savez, il y a un dictionnaire extrêmement riche sur le plan sexuel. Il y a un livre formidable qui s'appelle Psychopathia Sexualis, qui révèle toutes les perversions sexuelles. Mais l'Académie n'est pas faite pour donner tous les termes médicaux, si vous voulez, sur la pratique sexuelle.
Il y a une avancée, par contre, pour l'Académie, c'est la féminisation des mots et de certains métiers. Bon, vous étiez un peu les derniers de la classe, quand même, à proposer cette féminisation.
Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'étais tout à fait favorable à cette féminisation, même si, en fait, maintenant, nous assistons à une langue française à deux vitesses, ce que je regrette. Parce que, vous savez que, finalement, le masculin est neutre. Mais, par exemple, pour ministre, moi, très souvent, quand je vois une dame qui est ministre, je lui dis, je vous appelle madame le ministre ou madame la ministre.
Et pour préfet, vous dites quoi ? Pour préfet au féminin ?
Pour préfet, alors madame le préfet ou madame la préfète.
Préfète, il n'y a pas. Lorsque l'on tape préfète dans recherche, il n'y a pas de définition.
Oui. Non, mais...
Il y a une définition, mais c'est épouse d'un préfet. Alors, c'est pas du tout la définition qu'on lui donne aujourd'hui.
C'est vrai. Interroger les préfètes ou mesdames les préfets, il y a des femmes ambassadeurs qui ne veulent pas qu'on l'appelle madame l'ambassadrice. C'était la femme de l'ambassadeur. Mais c'est le fond de la langue française, c'est donc que dans les fonctions, le masculin était le neutre.
Alors vous, les immortels, comme on vous appelle, vous travaillez depuis un an sur une 10e édition du dictionnaire, c'est ça, hein ?
Oui, on va commencer, on prend son temps. Vous savez,
la publication est prévue pour quand ?
Dans quelques années. On a le temps, et c'est ça qui est, je dois dire, le génie de l'académie, c'est la durée. Mais bon, quelle est la durée depuis 1634, avec tous les problèmes qu'il y a eu, qu'elle ait traversé la guerre, c'est formidable qu'elle ait traversé la guerre. Voilà. Donc je crois que à l'étranger, je vous promets que on est très respecté. Moi, quand je vais à l'étranger, je suis surpris, j'ai l'impression d'être important.
Et les Français...
C'est pas toujours le cas quand je suis à la radio avec vous.
Et les Français, vous les motivez comment à ouvrir un dictionnaire papier ? Certains jeunes ou autres qui veulent, par exemple, avoir la définition du mot chocolatine ou de daron, eh bien, dans le dictionnaire de l'Académie française, on n'aura aucun résultat. Donc on peut aussi aller vers des dictionnaires en ligne.
Bien sûr, mais vous savez, un dictionnaire, c'est toujours des frustrations. Et c'est tout le travail de l'Académie, de faire entrer des mots et d'en supprimer d'autres qui sont un peu obsolètes. Il faut voir le dictionnaire comme un symbole, comme l'expression d'un pays à travers la littérature.
Et donc un symbole de l'histoire de France, de la langue française, 9e édition avec un nouveau tome disponible en ligne, également un bel ouvrage de 800 pages aux éditions Fayard, c'est disponible en librairie, ça fera à tous les coups un très beau cadeau de Noël. Oui, effectivement.
Et également, n'ayons pas peur de parler français, préfacé par Dominique Bonnat, que vous trouverez chez nos éditions Lafon.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Jean-Marie Rouard, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Nuit Weekend.
Merci.
Et 22h26, vous écoutez Europe 1 du week-end. C'est un peu le classico du rugby international. Le 15 de France défile la Nouvelle-Zélande, tournée d'automne. Un test match dans un stade de France plein à craquer. Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
On vous retrouve en direct du Stade de France. Vous suivez la rencontre pour Europe 1. Alors pour l'instant, on joue la 65e minute. Match très très serré et ce sont les Bleus qui mènent.
Oui, à l'instant, Louis Bielbiaré vient d'inscrire le troisième essai français qui a été transformé il y a quelques secondes par Thomas Ramos. 24 à 17 pour les Bleus face aux Néo-Zélandais qui avaient mal entamé la partie. Ils avaient encaissé deux essais et puis les Français ont réagi. 24 à 17 après 52 minutes de jeu ici au Stade de France.
Merci beaucoup Axel May. Donc 24 à 17 et en cas de victoire, les Bleus enchaîneraient un troisième succès consécutif face au All Blacks. Ça n'est pas arrivé depuis 1995. Les résultats de cette rencontre dans notre prochain point d'information à 23h.
Europe 1 Nuit Weekend. Brandon Ouarette.
Europe 1, 22h27. L'heure de faire un point sur votre météo. Bonsoir Loïc Roosevelt. Alors déjà, pour ces prochaines heures, c'est une France coupée en deux, Loïc.
Ce soir, les passages nuageux restent fréquents sur la moitié nord et du golfe du Lion aux Cévennes. Ailleurs, vous profitez d'un ciel clair. Demain matin, un ciel couvert en revanche sur la partie nord, dans le sud-ouest et localement en vallée du Rhône. Mais des éclaircies sur les Hauts-de-France après l'arrivée de la pluie par la Manche et la mer du Nord qui finira par traverser la région parisienne. En revanche, un ciel dégagé des Pyrénées aux Alpes en passant par la Grande Bleue. L'après-midi, des pluies localisées de la Vendée jusqu'à l'Allemagne et même de la neige sur les Vosges dès 900 mètres d'altitude. En allant vers les côtes du Nord, des éclaircies et toujours un soleil plus généreux du relief pyrénéen aux Alpes en passant par les régions méridionales avec l'aide de la tramontane qui soufflera modérément. Des températures dès votre réveil en hausse sur la moitié sud par rapport à ce matin, encore proche du zéro sur les régions centrales et dans le Nord. Reste. Ailleurs, des valeurs faiblement positives. Gardez le manteau chaud par précaution. Et dans le courant de l'après-midi, des valeurs régulièrement vers les 10 degrés, toujours près des 20 degrés vers le pourtour méditerranéen. Seulement 1 degré prévu au lever du jour à Strasbourg, à Dijon et à Nantes. 11 au meilleur de la journée à Paris, 12 à Rennes et de la douceur pour une mi-novembre à Perpignan. Un bon 20 degrés à l'ombre et à l'abri du vent.
Merci beaucoup Loïc Roosevelt. À demain. Valérie Darmon, la Libre Antenne, c'est à vous. Et je suis très content de vous retrouver parce que votre présence était un peu incertaine ce soir. Vous avez perdu votre chat, 22 ans avec lui quand même.
Oui, 22 ans d'amour partagé. Elle s'est éteinte cet après-midi. Pour les auditeurs qui me laissent de très gentils messages. Ça ne va pas nous empêcher de faire une bonne émission et de vous retrouver tout à l'heure à 23h.
Merci d'être
pour de nouvelles
là,
informations. À tout à l'heure, Brandon. Merci de penser à elle.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer.
La bataille du budget sera rude.
Il faut absolument une commission d'enquête sur le dérapage des comptes publics.
Qui est prêt à assumer devant les Français la responsabilité de la crise financière?
Les fondements du macronisme s'effritent sous le poids du dérapage des comptes publics.
Ce qui est terriblement inquiétant, c'est que l'État a laissé faire.
Inévitablement, on risque d'en passer par le 49-3.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Alors à lundi, 7h-9h sur Europe 1.
Quand vous voulez du carburant pas cher, vous allez chez Leclerc. Quand vous voulez un camembert pas cher, vous allez chez Leclerc. Alors juste une question, pourquoi vous ne faites pas pareil pour votre forfait mobile? Vous avez peur que ce soit pas assez cher?
Chez Règle Mobile, on change de forfait selon ses besoins, comme on veut et quand on veut. Règle Mobile, le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit.
Bah c'est le top.
Leclerc.
Retrouvez nos offres en magasin et sur www.reglemobile.leclerc.
Valérie Darmon vous écoute sur Europe 1.
Et notez que cette semaine, votre radio préférée, donc Europe 1, bien sûr, vous offre le tout nouvel iPhone 16. Pour jouer, c'est facile, écoutez bien Europe 1 toute la journée. Et dès que vous entendez le top jeu Europe 1, vous avez 15 minutes pour vous inscrire au tirage au sort par SMS. Restez attentifs, le top jeu Europe 1 tombe plusieurs fois par jour. Bonne chance à vous. Yeah.
Europe 1. La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
Bienvenue dans votre Libre Antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour évoquer vos joies, vos peines, vos hommages, vos rencontres, vos colères, vos rêves et vos renoncements. Juliette et Nicolas sont à mes côtés pour prendre vos appels au standard 01 80 20 39 21. Le 7 39 21 précédé du mot nuit pour nous laisser vos SMS, vos réactions. Vous pouvez nous écrire aussi sur la page Facebook de l'émission ou à l'adresse libreantenne@europe1.fr. Tristan est à la réalisation et moi bien sûr à votre service. Pour démarrer cette émission, voici les mots de Freud. Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Ne l'oublions pas. La Libre Antenne de ce samedi soir, c'est maintenant.
La Libre Antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Bonsoir Roberto.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Avec grand plaisir, surtout que vous allez nous faire rêver, on en a bien besoin dans ce monde actuel. Et vous allez nous faire rêver parce que je crois que, d'abord vous êtes très jeune, vous avez 26 ans. Et vous avez déjà quasi fait le tour du monde, c'est ça?
Alors presque, hein, presque, mais j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, oui c'est ça.
Comment on en vient à votre âge, à presque avoir déjà fait la moitié du tour du monde? On va le dire comme ça.
Alors c'est une longue histoire, je sais pas par où la commencer, mais si on dit pas dans les détails mais dans les grandes lignes, moi je commence à vouloir partir il y a maintenant 2 ans et demi. Et pour comprendre pourquoi, faut remonter juste 2 ans, à peu près 2 ans avant, voire un peu plus. Et donc j'étais journaliste à Paris. C'est le rêve que je voulais faire depuis toujours, depuis que j'avais 15 ans. Et donc je me retrouve à faire ce métier-là assez jeune. Les choses se bouscule pour moi aussi de manière très rapide à l'époque et à 22 ans, le point, à 24 ans, pardon, le point de rupture et partir loin et justement découvrir le monde.
22 ans, le point de rupture, c'est très très jeune. Est-ce que c'était un point de rupture qui était déjà sous-jacent ou que vous couviez déjà dans votre vie, ou c'est ce rêve que vous réalisez qui arrive peut-être trop tôt et on se dit quand il arrive et so what ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, Roberto ?
Alors je pense que c'était pas sous-jacent, en tout cas je l'ai pas vu venir honnêtement. Ce rêve, il a pris la forme en fait. Moi, depuis que j'avais 15 ans, je voulais être journaliste, donc j'ai fait des études de journalisme. J'ai commencé par les stages, par me faire du réseau. Enfin voilà, le chemin un peu classique de ce métier-là. Et il se passe que à 22 ans, donc, je travaille pour une société de production et je me retrouve à réaliser un envoyé spécial, donc l'émission de reportage sur France 2. Et moi, c'est mon rêve, c'est-à-dire c'est mon rêve de faire des grands reportages, de partir avec quelqu'un qui a une caméra et d'aller sur le terrain, etc. Donc à ce moment-là, je réalise un rêve. Franchement, je ne nierai pas ça, même aujourd'hui, je réalise un rêve. Mais pourtant, quand on réalise son rêve, on a l'image du déclic parfait de dire bah, c'est bon, c'est ça que je travaille pour ça depuis 7 ans. Je me suis battu pour faire ce métier-là, pour en arriver là. Et il n'y a pas cette étincelle que j'aurais imaginé. Et au contraire, il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a tout ça. Et ça, je ne vais pas me rendre compte directement. En fait, ça va mettre à peu près 2 ans où je continue à réaliser des reportages, où je continue à m'insérer dans cette vie-là. Et le point de rupture, c'est mon poids, en fait. C'est un jour où je me rends compte que... Enfin, je me rends compte, est-ce qu'on s'en rend compte facilement ou pas, mais j'avais pris 20 kilos en un an. Ce qui, pour moi, était le symptôme, justement. Donc, le déclic de la rupture, ça a été le corps, d'abord.
Le corps, d'abord. Et ensuite, vous avez fait un burn-out ou pas? Parce que cette lassitude dont vous nous parlez, cette endurance aussi, vous tenez à faire ce métier, dans le sens tenir bon. Est-ce que ça vous conduit aussi, à un moment donné, à un burn-out psychologique?
Alors, je sais pas si je pourrais mettre les mots burn-out, parce que voilà, à l'époque, en tout cas, je l'ai ni diagnostiqué ni quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est clair qu'à un moment, j'arrive à un épuisement total où je me dis pourquoi je fais ça, en fait. C'est-à-dire, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, pour pas forcément énormément d'argent, contrairement aux idées reçues. Et donc, à un moment, je me dis, ok, là, c'est l'énième semaine où t'es épuisé, c'est l'énième semaine où t'es angoissé, mais pourquoi? Et quand j'ai su que je ne trouvais pas la réponse, là, je me suis dit qu'effectivement, alors voilà, je sais pas si le mot c'est burn-out, on dit bore-out aussi maintenant, oui. Pour les gens qui s'ennuient. Mais c'est ça, moi, c'était un mixte des deux, c'était, je trouvais ni le repos dans la calmie, ni le repos dans la tempête, donc c'est que je n'étais pas au bon endroit, je pense.
Est-ce que vous vous êtes dit, je me suis trompé de rêve? Où vous avez coché la case et donc finalement ce que vous pensiez être un rêve a été tellement décevant que vous vous êtes dit bon bah finalement c'était juste une expérimentation parmi d'autres.
C'est une très bonne question. Je pense pas m'être trompé de rêve, et encore aujourd'hui je suis extrêmement extrêmement fier, extrêmement heureux d'avoir fait tout ça, des gens qui m'ont fait confiance, et ensuite dans mon parcours j'y suis aussi retourné, et donc j'ai pas été déçu en fait de ce qu'était le métier. J'ai été déçu des attentes que j'avais mis dessus, et donc je me suis pas trompé de rêve, mais je me suis trompé dans l'idée de penser que réaliser un rêve professionnel était la réponse à tout. C'est surtout ça l'erreur que j'ai faite.
Vous l'avez fantasmé aussi peut-être ce métier, non?
Évidemment, parce que moi j'en rêvais énormément. Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, et ça me paraissait très loin. Moi j'ai grandi dans le sud de la France, à Nice, donc être journaliste, réalisateur à Paris, tout ça me semblait être vraiment une autre vie. Et finalement, quand je l'ai eu, quand j'ai commencé à avoir un salaire, quand j'ai commencé à me payer des trucs, à pouvoir me payer ma vie et avoir cette reconnaissance sociale-là que je trouvais dans ce métier-là, je me suis rendu compte que finalement, ça n'apportait pas du tout la satisfaction que j'attendais et que ma liberté, mon bonheur, je le trouverais ailleurs.
Et donc justement, cet ailleurs, ben vous décidez de l'expérimenter là aussi et de partir. À ce moment-là, c'est une fuite?
La très bonne question aussi, c'est une fuite, oui. Je pense qu'au début, c'est une fuite. Je pense que, parce que tout se passe très vite, hein, c'est-à-dire que en mai, je prends à peu près ma décision. En juin, j'annonce que je ne reste pas et en juillet, je pars. Donc tout ça est allé très rapidement. Il y a eu un rejet en fait de Paris et de tout ça très soudain. Et au début, c'est une fuite. C'est-à-dire je cherche d'abord à m'éloigner avant d'aller trouver quelque chose.
C'est un peu la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il y a tellement de déceptions qu'on se dit ça y est, je plie bagage, je m'en vais et je me retourne pas. Ça fait un peu politique de la terre brûlée. Est-ce qu'il y avait uniquement ces 20 kilos qui vous ont alerté ou il y avait d'autres difficultés personnelles aussi?
Alors au début le signal c'est le poids. Au début c'est ce corps dans lequel je me reconnais plus, dans lequel j'estime avoir perdu le contrôle. Et de fait, ça déborde sur tout le reste. Donc, j'étais en couple à l'époque. Et pareil, la relation suivait son cours. Il n'y avait rien de négatif en tant que tel. Mais je me trouvais apathique, routinier. Et donc, ça s'installe dans le couple. Ça s'installe ensuite dans le travail où, comme je dis, on se trouve ni dans le repos, ni dans la tempête. Et le problème, c'est que quand on estime que son travail, c'est la vie, et que le travail ne va pas, on a l'impression que notre vie ne va pas. Et donc, en fait, on est enfoncé un petit peu dans un tunnel. Et donc, c'est le corps, c'est le rapport aux autres. Je devenais un peu aveugle, en fait. Je m'épuisais sans être incapable d'expliquer pourquoi c'était le cas.
Donc, oui, et puis on n'est pas ce qu'on fait, on est ce qu'on est surtout.
Exactement.
Et là, visiblement, vous étiez votre métier. Or, le métier ne peut pas prendre tout l'espace, bien sûr, même quand c'est un métier passion. Hein. Et encore, quand c'est un métier passion, ça peut s'expliquer quand même, faut quand même le dire. C'est toute la nuance. Donc là, vous décidez de prendre de l'âge, donc j'imagine que vous quittez votre compagne en plus.
Oui, c'est ça. Tout ça. Alors en fait, ça se passe quand je commence à avoir le point de rupture du corps. Le premier choix que je fais, donc, c'est de terminer la relation, de rompre dans la relation dans laquelle j'étais. Là, je suis pas encore proche de mon. Je ne sais pas encore que je vais partir en voyage à ce moment-là. Mais là, je commence à entamer un travail personnel. Je me dis dans 6 mois, tu auras perdu tout ce poids-là. Donc 6 mois plus tard, j'avais perdu les 20 kilos. Et à ce moment-là, je quitte, il me restait que le travail finalement. Et donc à ce moment-là, je quitte le travail. Et là, voilà, c'est ce que vous dites, c'est la terre brûlée. Donc là, je suis plus en couple, je n'ai plus de travail. Je me suis un petit peu réapproprié mon corps. Et c'est ça le point de départ du voyage.
Et en fait, est-ce qu'on peut dire, parce que là, vous avez 22 ans, donc c'est très jeune. Est-ce que c'est parce que vous avez eu tout trop tôt? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui rétrospectivement?
Je pense, alors effectivement j'ai 22 ans quand ça commence et j'ai 24 ans au moment où je pars.
Mais ça
reste jeune, mais effectivement il y a un temps diffus entre les deux quand même, mais effectivement à 22 ans ça débarque et est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que peut-être que j'étais trop naïf à ce moment-là, peut-être que j'étais trop idéaliste aussi. Mais en même temps, je me dis, si c'était arrivé 5 ans après, est-ce que j'aurais pas fait le même constat trop tard aussi? Donc, je suis assez reconnaissant d'une certaine manière que tout ça soit arrivé tôt déjà, parce que ça m'a donné aussi la chance de gagner ma vie plus jeune, donc d'avoir aussi une liberté que j'aurais pas jamais vu partir en voyage si j'avais pas travaillé les années précédentes. Donc, il y a une chance d'avoir vécu tout ça. Et en même temps, voilà, le milieu journalistique, il est très concurrentiel. C'est aussi une machine à fabriquer des égos. C'est aussi un milieu qu'on fantasme. Donc peut-être que le moi qui débarque à 22 ans là-dedans, il est peut-être pas assez mûr. Il est peut-être pas, voilà, c'est peut-être un fruit pas assez mûr qui se retrouve confronté à tout ça.
Roberto, est-ce que cette lucidité aussi que vous avez entre 22 et vos 24 ans, vous la devez aussi au travail personnel que vous avez entamé?
Clairement, je pense. Donc moi dans le travail, ce que j'entends par travail personnel, je suis allé chez un psy. Donc ça, je commence à aller chez un psy. On est déjà vers la fin, qu'on est 6 mois avant le départ à peu près. Ça c'est quelque chose. Voilà, moi je suis un fervent défenseur de la thérapie. Il
oui.
Faut se la permettre, il est
moi
vrai,
aussi.
Mais moi c'est quelque chose. Voilà, faut se le permettre, etc. Mais moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, qui m'a permis aussi à me regarder en face. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui je blâme personne, je blâme aucunement la relation dans laquelle j'étais, aucunement les gens avec qui je travaillais, parce que fondamentalement j'étais pas mal entouré du tout, j'étais bien entouré même, mais c'est moi qui me suis mis dans des schémas, c'est moi qui ai trop fait peser en fait sur cette situation, et ça c'est évidemment le travail personnel. Je ne sais pas, on ne sait jamais, mais peut-être que si j'étais pas allé chez le psy, je n'aurais pas entamer ce travail-là sur le corps et peut-être que je serais parti 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard.
Est-ce que vous étiez déjà un voyageur avant ce grand voyage ?
Oui, j'aimais déjà beaucoup le voyage. J'avais commencé à mes premiers voyages solo avec un pote. On commençait quand j'avais 18 ans. Et donc, avant de partir, c'était déjà quelque chose que je pratiquais. J'étais déjà allé dans pas mal d'endroits avant le départ. Évidemment, les reportages ont aussi conforté ça parce qu'on voyage beaucoup. Mais c'est pas quelque chose que j'ai découvert à 24 ans. C'est un peu une toile de fond. Je savais qu'à un moment ou l'autre, je voulais partir loin et plus longtemps. Et j'avais déjà vécu en Norvège pendant 6 mois avant. Donc voilà, c'était déjà quelque chose qui était là.
Cette demi-fuite, elle vous conduit dans quel pays alors en premier ?
En premier, en Jordanie.
À Petra, non ?
Alors j'ai tout fait, c'est pas la bonne expression, mais je veux dire, j'ai fait du nord au sud, j'étais avec un ami, et donc on commence à Amman, et on descend jusqu'à Aqaba, donc au sud, et donc forcément on passe par Petra qui est au milieu.
Pourquoi la Jordanie ?
La Jordanie, c'était un rêve de... Déjà, je rêvais du désert depuis, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans avant le départ. Donc la Jordanie a le désert du Wadi Rum, qui est un immense désert magnifique dans lequel a été tourné, par exemple, Laurence d'Arabie, les films Dune, Seul sur Mars. Donc c'est vraiment l'image du désert tel qu'on s'en fait dans des rêves de voyage et d'aventure. Et aussi parce que je partais pour interroger une notion de liberté. Et moi, au départ, la Jordanie m'inspire ça, parce que le nomadisme me pose cette question-là, et c'est un pays dont une grande partie de la population est nomade. Donc au début, ce qui m'attire en Jordanie, c'est cette idée de mouvement, de justement traverser le pays, de passer d'une zone à l'autre. Je voulais interroger cette idée-là.
Et ensuite, vous vous êtes dirigé vers où ?
Ensuite, après la Jordanie, je pars ce qui a été le cœur de cette aventure, qui est l'Amazonie équatorienne. Et là, je reste un mois au sein d'une communauté indigène, vraiment en vivant avec eux et en mangeant ce qu'on chassait, pêchait, cultivait, en étant vraiment dans des conditions d'immersion totale.
Alors là, vous commencez à trouver le sens, j'imagine. La Jordanie, c'est l'appel du désert, et ensuite la rencontre avec les indigènes en Amazonie équatorienne. J'imagine que là, le sens commence à se faire, non ?
C'est ça, c'est qu'en fait, la conclusion de la Jordanie a été que la fuite que j'avais ne suffirait pas et que j'avais une idée en fait assez superficielle de ce qu'était la liberté, c'est-à-dire on part, on voyage et ça suffit. Et en fait, c'est pas suffisant parce que les personnes que je rencontrais en Jordanie, je pense à par exemple un nomade que j'ai rencontré qui s'appelle Igop, qui vivait, que j'ai rencontré sur une montagne, qui était là pour la semaine et qui allait changer d'endroit plus tard, elle me disait, moi je suis libre dans le sens où je change d'endroit constamment, mais je suis très seul par exemple. Et ensuite j'ai rencontré quelqu'un dans le désert qui s'appelait Suleiman, qui lui m'expliquait que le fantasme que moi j'avais du désert, lui il avait le même pour Paris. Et que finalement, lui, il était prisonnier du désert, alors que moi, je fantasmais le désert. Donc en fait, quand j'arrive en Amazonie équatorienne, je n'ai plus aucune certitude, et je suis en mode, ma version de la liberté, c'est celle des romans d'aventure, mais elle est superficielle, elle ignore beaucoup trop de choses, et là, c'est le choc brutal de la vie que j'ai découvert là-bas.
Et alors, qu'est-ce qu'elle vous enseignait, cette vie que vous découvrez ?
Alors, par où commencer ? Ça a été tellement... j'y pense encore tous les jours, ça a été tellement riche, tellement dense.
Initiatique.
Exactement, et tout ce voyage était un récit initiatique en soi, pendant que je le vivais. Je dirais comme ça que... Alors, ça va me sembler pessimiste pour les auditeurs et auditrices, mais c'est pourtant un moment qui m'a fait choc sur la question du sens que vous posez. Je suis avec Diego qui est donc un homme qui vit dans cette communauté, qui nous aide beaucoup, qui nous loge, etc. J'étais avec un ami qui s'appelle Nicolas et on est au bord d'une rivière qui s'appelle la Pastassa, qui est une grande rivière qui mène de l'Équateur jusqu'au Pérou. Et on vient de passer, je vous passe les détails de la journée, mais tout était convoqué, les tarentules, les torrents de la rivière, les fourmis de feu, la totale. Et on se pose près de l'eau le soir, on discute. Et il me dit, il lâche comme ça d'un coup, et il dit, maintenant je n'attends que la mort. Et il a 35 ans, donc c'est un peu jeune pour attendre que la mort. Et il nous dit, moi ce qu'on m'a dit c'est qu'il fallait avoir une femme, avoir des enfants. J'ai une femme, j'ai des enfants, maintenant je n'attends que la mort. Et c'est là où le vrai choc a commencé pour moi, c'était de me rendre compte qu'en fait, la quête de sens qu'on a dans nos sociétés à nous, individualistes, occidentales, etc., déjà, elle n'a pas vraiment lieu d'être dans d'autres communautés. Et surtout, qu'est-ce qui est fondamentalement si différent chez nous? Nous, on a plein d'autres choses pour habiller un peu la mascarade, la culture, le divertissement, etc. Mais on est un peu tous prisonniers du même destin. Et paradoxalement, ça m'a libéré.
Peut-être que ce monsieur était tout simplement accompli.
Peut-être qu'il était accompli, mais il avait l'air, en tout cas quand il en parlait, il avait l'air il n'était pas en paix avec cette idée d'attendre que la mort. Il était plutôt il avait l'air en conflictualité, comme si lui avait atteint justement une forme de lucidité extrême. C'est un peu l'homme absurde de Camus, quoi. Mais il avait l'air d'avoir compris qu'il n'y avait pas de sens métaphysique à son existence et que maintenant tous les jours allait se ressembler, grosso modo, voilà le mythe de Sisyphe, hein, tous les jours allait se ressembler jusqu'à la fin. Et moi, ça m'a vraiment interrogé sur la quête de sens. Est-ce que vraiment on trouve un sens qui bouleverse notre vie, ou est-ce que ça se situe ailleurs?
Alors, le ailleurs d'après pour vous, parce que là, c'est carrément triste, hein, quand même, ce que vous partagez là de Diego.
Bien sûr, mais c'est la réalité, donc je préfère dire les choses telles qu'elles ont été dites et vécues que...
Oui, bien sûr, ça évite le phare de l'illusion, hein, et on est très fort pour ça, nous les êtres humains. Donc votre ailleurs d'après, il vous mène où?
Après l'Amazonie. Ensuite, après l'Amazonie, je pars au Brésil. Alors là, c'est une partie un peu plus légère, un peu plus courte aussi de mon voyage, où en fait je vais à Salvador de Bahia, et donc qui est la capitale de la région de Bahia au Brésil, qui est un lieu très balnéaire. Et je vais notamment sur une île qui s'appelle Moho de São Paulo, qui est une île très touristique. Donc là, vraiment, je passe du tout au tout. Et là, finalement, ce que je vais interroger, mais c'est pas conscient à l'époque, c'est est-ce que être libre, c'est un peu la carte postale qu'on a posée sur notre bureau? Est-ce que c'est les palmiers? Est-ce que c'est accéder à ce qu'on veut quand on veut? Et là aussi, la réalité a été plus compliquée.
Oui, parce que vous êtes rendu compte que ça suffisait pas. C'est un petit peu comme quand vous rentrez dans le journalisme, que vous faites un envoyé spécial et vous vous dites ça suffit pas. Mais et c'est ce que vit aussi Diego en Amazonie. Il a tout mis en place comme on lui a appris et ça suffit toujours pas finalement.
Exactement. Et en plus, c'est un bon parallèle que vous faites, c'est que finalement ce que j'expérimentais sur cette île, donc Tinaré, avec le village de Moho de São Paulo, était un peu ce que j'avais revécu avant. En fantasmant une vie, et puis même j'irai aussi un petit peu plus loin dans l'idée où je découvre à un moment que cette île, où quand vous êtes dedans, c'est l'île parfaite, hein. Enfin, vous l'imaginez comme l'île cliché de vos rêves,
et
c'est cette île-là, et en fait un jour je décide d'en sortir, de continuer à marcher en dehors, ce que personne ne fait, et en fait derrière l'île, mais vraiment quand même, derrière le village, pardon, c'est des bidonvilles, quoi. Mais à 10 minutes à pied, grosso modo, du village. Je me suis dit comment en fait mon paradis à moi peut être un lieu de réclusion, être un lieu d'enfermement pour d'autres personnes. Moi, je peux pas m'amuser à profiter dans des courtes fenêtres de paradis, alors que derrière il y a l'extrême pauvreté qui cohabite littéralement avec l'endroit où je suis. Et on en revient à cette notion de lucidité. Il fallait d'abord comprendre là où j'étais et comprendre que je peux pas trouver le bonheur dans cet endroit-là.
En fait, la vie repasse les plats jusqu'à ce qu'on en ait assez du même plat. Et là, finalement, c'était un peu ça. Elle a frappé fort pour que vous compreniez le même message depuis Paris.
Exactement. Et en fait, ça peut sembler effectivement, vous dites triste, ça peut sembler triste au début de se dire, bon, finalement, est-on jamais libre si on ne fait que courir après un nouvel endroit? Mais je pense qu'au contraire, c'est aussi un appel au mouvement, parce que dans chacun de ces endroits, et ensuite, on peut en parler, je suis parti en Thaïlande pour vivre quelque chose d'assez différent, mais dans chacun de ces endroits-là, j'y ai trouvé des choses incroyables, j'y ai trouvé des choses magnifiques, j'y ai trouvé des choses intéressantes, mais tous les endroits avaient leurs limites, mais de la même manière que notre modèle, là en l'occurrence cette vie à Paris, avait totalement des limites aussi. Donc c'était juste affronter ces endroits avec la même honnêteté avec laquelle j'avais fini par affronter ma vie.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on apprend sur soi en étant en lien avec les autres. Alors quand c'est les peuples premiers, c'est encore mieux. Parce qu'évidemment, là, on va toucher un peu, entre guillemets, au sacré, hein, un autre mode de vie. Alors l'enseignement de l'Asie, Roberto, il a été lequel?
Waouh, c'est vraiment la question des questions. Peut-être ce que j'ai gardé l'enseignement que j'ai gardé le plus de tout ça, il est un peu en deux temps. Le premier, ce serait de que il y a rien d'absolu et que en fait on pense qu'on existe dans une matrice, donc était la mienne, cette vie à Paris, etc. Et je pense que tout le monde qui écoute pourra reconnaître sa matrice, qu'est-ce qui la constitue, les gens qui sont dedans, le travail, les attentes, les embrouilles avec les collègues, les machins, tout ça. Il y a cette matrice-là, mais en fait, il y en a énormément d'autres. Et donc ça, pour moi, ça donne la deuxième partie de cet enseignement, qui est d'essayer de rester constamment curieux sur les autres. Parce que là, je parle de moi, c'est une quête personnelle, mais ce que ça m'a ouvert au plus, c'est les autres personnes. C'est de regarder les modes de vie. C'est ça, c'est ce que vous faites sur votre émission, c'est de regarder des gens, mais qui n'ont aucun rapport avec vous, et de vous dire, ok, je comprends peut-être pas...
Ou qui ont tout à voir aussi, hein. Parce qu'on est en miroir beaucoup. Hein.
Exactement, et ça fait un cercle à la fin. C'est qu'au début, on regarde quelqu'un, on se dit, je prends Diego, on compare nos vies, elles ne sont aucunement similaires en destin, en conditions de départ, en déterminisme, et pourtant, on se retrouve sur tellement de choses. Et ça, ce n'est possible que parce qu'on regarde les gens avec amour, avec curiosité, avec amusement aussi. Donc, ce que j'ai retenu, c'était un peu la mort du cynisme, quoi. C'est de continuer. Je pensais être devenu cynique, et en fait, je vois des opportunités partout maintenant.
Quel cas d'ailleurs, la vie en offre en permanence. On a Nathalie au 739-21 qui vous pose la question, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour faire tous ces voyages?
Alors très bonne question. J'ai économisé pendant ces deux années. Ce qui m'a coûté, si on parle vraiment budget, ce qui m'a coûté le plus cher, c'était les billets d'avion. C'est vraiment j'ai envie de dire 70% du budget de ce voyage-là.
Vous avez pris le billet d'avion tour du monde?
Non, moi j'ai vraiment pris c'est d'ailleurs quelque chose que je referai plus aujourd'hui pour même le bilan carbone. J'ai vraiment pris je suis parti de Nice. Et donc j'ai vraiment pris étape par étape, donc Nice, Jordanie, enfin Nice, Amman, etc. Donc j'ai fait manuellement, on va dire. Et ensuite je me suis beaucoup débrouillé pour au sein des endroits pour ne payer le moins possible. Typiquement le mois que j'ai passé en Amazonie équatorienne, je n'ai pas dépensé d'argent parce que je travaillais en échange pour la communauté et eux nous logeaient, nous nourrissaient. Là, on n'en a pas parlé, mais ensuite, je suis allé en Thaïlande aussi, et une partie, je l'ai passée dans un temple bouddhiste, et pareil, je ne dépensais pas d'argent. Je me suis aussi débrouillé pour que le plus cher, ce soit les billets, et qu'une fois sur place, j'ai au minima à dépenser.
Et les moines bouddhistes, qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné? La patience, le calme, le silence, le présent?
La discipline, surtout.
Ah oui, la discipline, oui, ça c'est sûr. J'ai oublié la discipline.
C'était la discipline surtout parce que on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de manger à certaines, enfin on pouvait manger qu'à certaines heures, on devait dormir à certaines heures, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, enfin tout un tas de choses comme ça. Et donc des personnes vous en empêchent foncièrement. Donc vous devez méditer, on doit méditer 10 heures par jour. Mais si je voulais manger des gâteaux dans mon dortoir,
chambre.
Je pouvais.
Ah, dans un dortoir.
Personne.
Oui. C'est pas dans une petite
salle. Enfin, en gros, toutes les chambres étaient à côté, mais moi, j'avais une petite chambre, personne ne dormait avec moi, en tout cas. Pas à ma connaissance. Effectivement, si je pouvais manger des gâteaux dans la petite chambre, personne n'allait m'en empêcher, mais c'est de la discipline. Et donc, j'apprenais comme ça à respecter les règles. Ça, c'était le plus dur. Je pourrais dire que j'ai trouvé le sens de la vie dans le temple, mais la vérité, c'est que j'ai trouvé beaucoup de souffrance, mais énormément de... Par contre, ça m'a beaucoup aidé.
Énormément de rigueur que vous avez gardé depuis?
J'aimerais vous dire oui.
C'est la grande question. C'est voyage initiatique, mais quand on rentre, c'est difficile. Hein.
Ouais. Mine de rien, j'ai réussi à transformer l'essai parce que dans la foulée de mon voyage, j'ai écrit un livre. Et pour écrire un livre, il faut une rigueur absolue. Et je pense que l'austérité monacale m'a quand même vachement aidé à bien me placer. Malheureusement, ce que j'ai un peu perdu derrière, c'est que j'ai arrêté de méditer. Et ça m'ouvrait à quand même pas mal de choses intéressantes.
On parle de votre livre dans un instant, Roberto. Restez avec nous, s'il vous plaît. Ça va être l'heure du Flash Info de Brandon Ouarette. À tout de suite.
Le Top Jeu Europe 1.
Ah bah, vous venez d'entendre le Top Jeu Europe 1. À partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer et tenter de gagner le tout nouvel iPhone 16. Pour jouer, c'est facile. Inscrivez-vous maintenant au tirage au sort. Envoyez le nom de votre radio préférée Europe 1 par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes suffisent, plus coût du SMS. Bonne chance à vous.
Dans mon entreprise, on accueille régulièrement des intérimaires. On a tout misé sur leur sécurité dès leur arrivée. Avec l'agence d'intérim, on s'assure de leur formation, de leurs équipements, et on les accompagne de la prise de poste jusqu'au dernier jour. Pour les intérimaires comme pour nos salariés, chez nous, la sécurité, chaque jour, on doit y penser.
Mieux préparé, mieux équipé, mieux formé. Employeurs, salariés, passez à l'action sur sécuritéautravail.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Je cherche un jeu avec un chien qui porte une casquette et qui fait la course.
Jusqu'à la tour de contrôle. Bien sûr, c'est Croque-Carotte, la patte patrouille.
Oh, vous l'avez? Oh, c'est ma fille qui m'a demandé ça.
On l'a, et en plus, il y a 50% de tickets Leclerc sur le jeu Croque-Carotte, la patte patrouille en exclusivité chez Leclerc jusqu'au 7 décembre pendant l'opération Jouet. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également disponible en click and collect et dans nos magasins Jouets Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc.
Conto, c'est le compte pro avec lequel c'est fait.
Allô, je suis entrepreneur et...
Pour joindre votre conseiller, dites conseiller.
Conseiller.